Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bienvenue dans l'émission de l'association de cinéastes documentaristes ADOC, on a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, nous sommes trois membres d'ADOC à animer cette émission. Doriane Conti, bonjour Doriane.
Bonjour.
Anne Galland et moi-même, Caroline Kim Morange. À la technique, Niki Velisaropoulou et Mélanie...
Et Paula Vallès.
Paula Vallès, merci. J'ai petite confusion. Nous accompagne. Dans cette émission, nous allons donner la parole à deux cinéastes dont les films sont très différents. On a avec nous dans le studio Éléonore Weber pour son film Il n'y aura plus de nuit. Bonjour Éléonore.
Bonjour.
Et à distance, par téléphone, si la technique fonctionne bien, on est en train d'y travailler, nous aurons Nathalie Loubert pour son film La mécanique du flux. Malgré leurs différences, dans les deux cas, ces films abordent la manière dont nous, occidentaux, regardons, surveillons et traitons les pays les plus pauvres ou les pays plus pauvres, pardon, ou qualifiés d'ennemis et leurs ressortissants. Bon, c'est dit très rapidement, mais vous verrez au cours de l'émission qu'il y a des points communs, évidemment beaucoup de différences entre les deux films. Nous allons maintenant vous les présenter et je vais commencer par celui d'Éléonore. Donc, tu me corriges, Éléonore, si tu n'es pas d'accord. Je vais essayer de retracer ton parcours. Ah. Donc, tu as commencé par travailler dans la mise en scène de théâtre. Avant, tu me coupes, hein, si tu veux rajouter des choses. Avant de te lancer dans la réalisation de films, tu as réalisé un premier documentaire en 2002, Silence dans le Fortin.
Oui, c'était quasiment... je ne sais même pas s'il a été diffusé, ça c'était un making-of sur un tournage.
D'accord.
Je faisais en même temps en fait du théâtre et j'avais commencé à faire quelques films.
D'accord.
Mais pour le cinéma, c'est plutôt des courts-métrages de fiction.
C'est ça. Donc j'ai noté deux courts-métrages de fiction, en tout cas, Temps mort et Les hommes sans gravité. Puis en 2012, tu as réalisé Night Replay pour le programme La Lucarne d'Arte, un film qui repose sur la constitution dans un village du Mexique de la Caminata Nocturna, un jeu de rôle grandeur nature mettant en scène le passage illégal de la frontière mexicaine. Tu as réalisé le film dont nous allons parler aujourd'hui, Il n'y aura plus de nuit, en 2020. Le film a été primé au Festival du cinéma du réel, sélectionné dans de nombreux autres festivals et a reçu divers prix. Il est sorti en salle mi-2021. Je précise aussi que tu es coprésidente de l'ASRF, je ne dis pas de bêtises, la Société française des réalisateurs.
On a changé le nom. Ah. Maintenant, c'est des réalisateurs et des réalisatrices.
Ah, merci.
Et même, je crois qu'on a mis réalisatrice en premier.
D'accord.
C'est récent, mais c'est à noter.
D'accord, à noter. Donc voilà, tu es coprésidente de cette institution, de cet organisme depuis 2022. Dans ton film Éléonore, tu utilises des images tournées par des hélicoptères militaires en situation de guerre. Tu accompagnes ces images par un commentaire, construit notamment à partir d'entretiens avec un militaire français qui pilote lui-même visiblement des hélicoptères de combat et que tu nommes Pierre V. Alors, on va écouter un premier extrait dans quelques instants à la technique. La liaison téléphone nous pose quelques petits soucis, donc c'est vrai qu'ils sont un peu débordés par ça, mais ils vont nous mettre notre extrait dans quelques secondes. Donc dans cet extrait, je vais le présenter. En fait, tu expliques plus en détail le fonctionnement de ces tournages qui forment la matrice de ton documentaire, et tu nous aides à décrypter les images que l'on va voir tout au long du film. C'est parti.
Lorsqu'ils sont en vol, tout ce que les pilotes regardent est filmé. Tout ce qui est filmé est ensuite archivé. Sur le théâtre des opérations extérieures, effacer les enregistrements constitue un délit ou même un crime. Il y a deux pilotes dans les hélicoptères. En bas, il y a celui qui conduit la machine. En haut, il y a le chef de bord, le tireur. Le chef de bord porte un casque dirigeant la caméra de l'hélicoptère. S'il tourne la tête pour voir ce qui se passe à gauche, s'il la tourne vers la droite, s'il l'incline, la caméra suit. Ses mouvements de tête guident aussi le canon mitrailleur. Tout se tient et ne forme qu'un seul corps.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Et nous venons d'entendre le début du film, un extrait du film d'Éléonore Weber, Il n'y aura plus de nuit. Éléonore, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert l'existence de ces images ? Peut-être que tu peux nous les décrire un peu plus aussi, parce que là on a entendu le commentaire et j'ai décrit très rapidement, mais peut-être que tu peux nous dire aussi un peu plus ce qu'on voit pendant le film et comment du coup tu les as découvertes et comment tu as eu l'idée de faire ce film.
Ça fait beaucoup
de questions d'un coup.
Alors je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit en introduction. Tu as parlé de tournage, que au fond la voix là expliquait comment ces tournages là se passaient. Alors je sais pas si on peut vraiment dire que ce sont des tournages. Donc c'est des images prises depuis des hélicoptères de l'armée, mais elles n'ont pas vocation à être des images ni de cinéma ni c'est un instrument qui sert à viser et à tirer et qui permet aux pilotes de voir, hein, et de mener des sortes de chasse à l'homme avec un couplage très étroit, tête, caméra, canon. C'est-à-dire, c'est ça qui est expliqué, c'est-à-dire que ce qu'il regarde est filmé et le canon est attaché à son regard, au fond, hein, du pilote. Alors j'ai trouvé ces images, ces images où les gens en ont vu, mais pas tout le monde, cela dit, c'est des images, c'est souvent des caméras thermiques, donc elles sont un peu grises comme ça, avec des silhouettes fantomatiques qui les traversent.
Les silhouettes blanches. Puisque c'est inversé.
Ouais, fantomatique, donc des fantômes sont blancs et luminescentes. Le principe de la caméra thermique, c'est que tout ce qui est chaud brille. Hein. Elle fait donc les corps, la chaleur des corps les fait briller dans dans l'image. Voilà. Donc je pense que les gens sont souvent tombés par hasard sur ces images sans forcément leur prêter une grande attention, c'est-à-dire qu'elles circulent de manière surtout informative. On peut en trouver dès qu'on tape guerre Moyen-Orient sur Internet, on tombe sur ce type d'image, par exemple. Et c'est comme ça que je les ai découvertes moi-même. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais justement pris le temps de les regarder. Et c'est en les regardant que j'ai décidé de faire un film qui serait exclusivement composé de ces images, ou presque. Il y a un épilogue à la fin, mais, mais c'est presque ce type d'image, puisque ce sont des tests caméra que les Américains font en ce moment. Pourquoi j'ai fait ce film ? Bon, ça, je sais pas, on va en parler, j'imagine, régulièrement au cours de l'entretien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé très vite de mettre hors champ la question géopolitique au fond et de m'intéresser surtout à ces images en tant que est-ce que ce sont des images d'ailleurs, ça c'est une question, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des images, mais en tant que matériaux et de mettre en jeu, ça tu l'as un peu dit dans l'introduction, la technologie du regard au fond que nos démocraties ont inventé pour faire la guerre. C'est ça mon sujet. C'est pas les guerres mon sujet pour le coup.
C'est clair. En fait, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, l'épilogue le dit aussi, puis le titre. Mais je voulais revenir sur ce que tu dis quand tu dis c'est pas des images. Enfin, c'est peut-être pas des images. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Leur statut est trouble. Est-ce que ce sont des documents purement opérationnels ou ce que Farouki appelait des images opératoires, donc dont la fonction est de servir une technologie, une mission guerrière. Là, il s'agit de viser, de tirer. Ou est-ce qu'elles ont des propriétés esthétiques qui en font des images regardables, notamment sur un écran de cinéma? Ça, c'est mon hypothèse. Mm-hmm. Qu'elles ont ces propriétés esthétiques-là et que de ce fait, ça nous pose d'autres questions. Ça pose la question de ce que c'est que voir. Et ça pose la question de la fonction de ces propriétés esthétiques dans la mission guerrière.
Mm-hmm. D'accord. Donc, par image, tu entends quelque chose, un document visuel qui a une fonction, qui a une qualité esthétique.
Qualité esthétique, ça ne veut pas dire que c'est beau, hein. Mm-hmm. Même les images. Non, mais c'est des propriétés esthétiques. Ça veut dire que pour moi, dans ces images-là, il y a quelqu'un qui cadre, en fait. Il y a quelqu'un mm-hmm. qui regarde régulièrement.
Mm-hmm. D'accord.
Il n'y a pas simple. Il y a un étroit couplage entre le regard et la mission, hein, de viser, de tirer. Mais de temps en temps, le regard se détache du viseur. Mm-hmm. Et le pilote devient témoin et le pilote regarde, filme et regarde. Mais évidemment, sa subjectivité est sans cesse en péril. Elle est sans cesse engloutie par la mission à accomplir, par même sa pulsion scopique qui est d'en voir toujours plus. Et au fond, un des objets de ce film, c'est d'ajouter des regards à son regard appareillé, donc son regard dont la subjectivité est quand même à discuter. Pour ça, c'est le rôle politique de ce film. En tout cas, c'était le sens politique de mon geste. C'était ajouter des subjectivités à la sienne qui, bien souvent, est absente, évidemment.
Mmh. Et parmi les subjectivités, ben, y a la tienne et il y a celle de ce Pierre V. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aussi comment tu en es venu quand tu t'es dit je veux faire un film, à imaginer de parler à ce soldat français? Et comment tu l'as rencontré, peut-être?
Au départ, j'écrivais seule face à ces matériaux, face à ces images, et d'une manière assez descriptive la plupart du temps. Je me contentais de rendre visibles certaines choses dans ces images qui ne sont pas toutes suffisamment lisibles, justement. Et d'avoir des considérations qui étaient les miennes. Bon, et j'ai trouvé que cette totale subjectivité avait pas beaucoup d'intérêt. Mm-hmm. Parce que d'abord elle était surplombante comme tous les commentaires de ce type, et j'avais pas envie de verser dans justement une esthétique du surplomb, hein, du discours trop général. Et puis ça me paraissait insuffisant, et la documentaliste m'a fait rencontrer un pilote. On a regardé certaines des séquences ensemble, lui avec son regard expert, moi avec mon regard profane, et j'ai trouvé très intéressant cette rencontre, parce que ça me permettait de dialectiser ma position. Et en dialectisant ma propre position, il me semblait que j'ouvrais un espace aussi de pensée, hein, au spectateur. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai... Et puis aussi, ça permettait d'échapper à la seule indignation, hein, morale face à ça, et qui n'était pas mon propos non plus.
Mmh. Voilà. D'accord.
Et ce Pierre V, il a quel rôle par rapport aux images? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui les a prises ou qu'il les connaît très très bien.
Non, je trouve pas qu'on ait cette impression. On a l'impression qu'il connaît. Pardon, hein, mais on a l'impression qu'il connaît bien cette technologie-là et qu'il connaît bien ce type d'image. Mais en revanche, celle que je lui montre, mis à part la bavure de Wikileaks, qui a été rendu public par Wikileaks, et ça tout le monde connaissait, enfin en tout cas les gens impliqués dans ce genre de choses connaissent cette séquence. Sinon, il les découvrait.
Mm-hmm. Et de manière très concrète, comment est-ce que tu as...
Du coup, il les analysait avec moi, c'est ça, en fait, on était à la même place, tous les deux, enfin, pas tout à fait à la même place parce qu'on n'a pas la même histoire, ni le même savoir, ou non-savoir d'ailleurs, mais il ne les connaissait pas, non. Mm-hmm.
Donc c'était vos deux regards qui, à ce moment-là, rentraient un peu en dialogue, quoi.
Ouais.
Et ces images-là, comment est-ce que tu les as récupérées? Est-ce que c'est par Internet? Tu disais qu'on pouvait en trouver sur Internet, ou est-ce que c'est par d'autres biais?
Oui, c'est que par Internet, sur des sites, sur YouTube, sur Dailymotion, sur des sites un peu plus spécialisés de vétérans de l'armée américaine, sur des sites un peu plus dark ou un peu plus bizarres, ou par exemple LiveLeaks, c'est un truc... où sont diffusées toutes sortes d'images impressionnantes, spectaculaires, quoi. Ça va du gag à la catastrophe naturelle, en passant par ces images de guerre. Mmh. Voilà. C'est une forme de le spectacle préexiste à ma décision d'en faire un film, ça c'est sûr, de ces images-là. Et c'est les militaires, en fait, qui les enregistrent sur une clé USB, chacune de leurs missions. Et ça rend très facile le fait de les publier ensuite. Mais c'est illégal, mais ça, c'est très facile de le faire, quoi. Mm-hmm. Techniquement, je veux dire.
Alors, je crois que Nathalie nous a rejoint, donc je vais faire ta présentation, Nathalie.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, Nathalie, tu débutes tes études de cinéma à l'Université Paris 8 et tu les poursuis à Paris 3 en double cursus lettres et cinéma. Tu t'envoles ensuite pour Prague afin de suivre les cours de la FAMU, célèbre école de cinéma. Et puis pour payer tes études, tu deviens script, à la télé d'abord, puis au cinéma en travaillant aux côtés notamment du réalisateur Raoul Ruiz. Tu es aujourd'hui réalisatrice, preneuse de son, monteuse, professeure et co-responsable du master cinéma documentaire Mémoire, Archives, Création à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et c'est d'ailleurs là où nous nous sommes connus, puisque tu as été ma professeure pendant les 2 ans de mon master là-bas.
Oui, tout à fait.
Tu as réalisé de nombreux documentaires, dont le court-métrage No Comment en 92 sur la situation des Tziganes à Prague depuis la révolution dite de velours.
Non, No Comment, c'était à Calais.
Ah, c'était à Calais.
Oui, c'était corps étranger de la situation des Tziganes à Prague.
D'accord. Et puis, donc, à contre-courant aussi en 2014. Et dans ce film, tu abordes déjà la thématique de la migration et notamment les dizaines de milliers de morts en mer Méditerranée. Et face à ce désastre, une coalition euro-africaine appelée Boat for People se développe pour affréter un bateau de solidarité en mer Méditerranée. C'était au cours du tournage de ton film La mécanique des flux. Et tu as demandé à être sur le bateau pour y filmer une séquence. Et finalement, l'équipe de Boat for People te demande de rester tout le voyage. Donc, tu en fais un film.
Oui, tout à fait. C'est ça.
Et ça m'amène au film qui nous intéresse aujourd'hui, qui est La mécanique des flux, que tu as réalisé en 2015. Donc, pour un petit résumé du film, aux frontières de l'Europe, des hommes et des femmes déterminés se battent pour surmonter les barrières que l'Union européenne leur oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son nom, décidant ainsi de leur vie, envers et contre tout. Ce film raconte la violence de la politique migratoire en Europe, et je vous propose d'écouter un extrait de la toute première séquence du film, qui est le générique de début. On est en Croatie, au moment de l'entrée du pays dans l'Union européenne. La foule crie de joie, et tu entrecoupes ces moments d'euphorie avec une musique qu'on pourrait qualifier de grinçante. Je vous laisse écouter. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Dans la fin de l'extrait, on entend le discours d'un homme, probablement le président de la Croatie, qui dit à la foule « C'était votre désir de rejoindre l'Union européenne et votre dur travail l'a rendu possible. Vous avez remis la Croatie à sa juste place de l'Europe. Depuis sa fondation, l'Union européenne a été une promesse de paix. » La musique grinçante que tu mets en opposition à ce discours renseigne déjà sur ton intention de film. Tu viens questionner et parfois dénoncer ce discours d'une Union européenne gardienne de la paix. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire comment ton envie de film, de faire ce film, est née ?
c'est un sujet qui m'a pas mal occupée en tant que réalisatrice, puisque j'ai fait donc non seulement ce film dont tu parlais là sur Boat for People, mais aussi un film à Calais, donc un 52 minutes qui s'appelait No Comment, et qui avait donc filmé la présence des migrants dans les rues de Calais à une époque où tout le monde pensait que donc c'était 5 ans après la fermeture du centre de Sangatte par Sarkozy que le problème était réglé et ces personnes étaient totalement invisibilisées dans les médias, alors que les habitants de Calais, eux, savaient que ces gens étaient toujours là et dans des conditions toujours plus difficiles. Et donc, voilà, j'avais décidé de faire ce film comme ça pour les réinvisibiliser. Et voilà, donc du coup, après avoir fait ce film, je voulais pas que la France soit le seul en cause dans cette affaire-là. Et sachant que la politique migratoire se décide largement au niveau européen, je voulais faire élargir un petit peu mon champ et du coup aller aux frontières de l'Europe et essayer de toucher du doigt un peu ce que c'était que la régulation de l'immigration, en fait, ce mot très euphémisé qui en fait recèle une énorme violence. Et donc c'est comme ça que la mécanique des flux est née.
Et du coup, tu as tourné un peu dans plusieurs pays d'Europe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton tournage, comment ça s'est développé, si tu as tourné sur longtemps, peut-être ?
Alors, ça s'est tourné de manière un peu fractionnée, parce que bon, c'était un film qui a été financé un peu de manière chaotique, comme beaucoup de documentaires. Mais toujours est-il que dès qu'on avait suffisamment d'argent, eh bien, on allait tourner dès que quelque chose nous semblait intéressant du point de vue qu'on avait défini au départ. Et donc ça s'est étalé, le tournage s'est étalé sur 2 ans, je crois, et je suis allée tourner donc en Croatie, puisque la Croatie venait de rentrer dans l'Europe, hein, c'est ce qu'on entend dans le début que vous avez diffusé, ce sont les réjouissances de l'entrée de la Croatie en Europe. La Croatie qui avait négocié son entrée dans l'Europe à un certain nombre de conditions, dont l'une d'entre elles était que cette nouvelle frontière extérieure de l'Europe qui allait être la frontière croate serait bien gardée. Et donc pendant des années, Frontex et les pays de l'Union européenne l'ont armée pour ça. Et donc la Croatie devait donner des gages pour cela. Donc du coup, j'ai profité de cette entrée de la Croatie dans l'Europe pour filmer à la fois ces réjouissances qui allait me permettre de parler de l'Europe, et aussi parce que cette frontière-là était nouvelle et que du coup il était beaucoup plus facile d'aller tourner dans la mesure où les services de communication n'étaient pas encore au point comme ils pouvaient l'être sur la frontière grecque, où tout était très verrouillé. Et donc, j'ai tourné aussi sur la frontière grecque, hein, mais c'est vrai que sur cette frontière-là, c'était beaucoup plus facile, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir récupérer ces images qui me valent sans doute d'être avec vous et avec Éléonore aujourd'hui, ces images donc de surveillance avec des caméras thermiques. Voilà, et puis j'ai tourné aussi à Lampedusa, et j'ai tourné aussi en Tunisie, puisque donc c'est de là que partent beaucoup de bateaux qui viennent en Europe.
Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit au début de l'émission, mais vos deux films ont ça en commun aussi, que vous avez toutes les deux des images de caméras thermiques et avec des points de vue et des histoires très, très différentes.
Oui. Tout à fait. Et c'était assez une expérience assez intéressante de regarder le film d'Éléonore, puisque mes images, en fait, les images qui sont pas les miennes, évidemment, qui sont les images des caméras thermiques de surveillance de la police aux frontières croates, elles contiennent finalement la mémoire de ces images que Éléonore a mis en scène, à savoir des images de guerre. C'est-à-dire que, évidemment, le spectateur moyen, quand il voit des images comme ça, avec une croix au milieu, ça lui évoque immédiatement ce genre d'image de guerre. Et donc, là, tout d'un coup, ces images, ça donnait bien l'idée que nous sommes en guerre contre les migrants. Alors, bien sûr, on ne leur tire pas dessus, mais évidemment, ces images sont extrêmement fortes parce qu'on a la mémoire de toutes celles que justement Éléonore a mises en scène. Et quand j'ai vu ces images, j'ai eu l'impression qu'elles étaient une sorte de préfiguration de ce qui pourrait se produire un jour. C'est-à-dire qu'un jour, le pas serait passé et qu'on leur tirerait dessus. Et pas très longtemps après, quelques mois après que j'ai tourné le film, la Hongrie a voté au Parlement le fait qu'on pouvait tirer sur les migrants qui passaient illégalement la frontière. Donc j'étais pas loin d'avoir bien senti les choses. Et c'est vrai que c'est parfois comme ça, les images qui nous racontent des choses que la réalité elle-même ne peut pas contenir. Voilà, ces images, quand je les ai vues, quand la police croate, puisque donc on était dans le poste frontière où ils faisaient cette surveillance pendant la nuit, et puis, au moment où on filmait, il n'y avait pas de migrants qui s'inscrivaient dans ces caméras, ils nous ont montré des images qu'ils avaient enregistrées sur une clé USB, exactement comme les militaires dont parlait Éléonore. Et ils nous ont montré donc des images au cours desquelles il y avait eu des migrants d'attrapés. Et donc, quand on a vu ces images, on était absolument frappé par la densité de ce qu'elle racontait. Et du coup, on a évidemment filmé l'écran dans lequel il nous le diffusait dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, on leur a demandé s'ils seraient d'accord pour nous communiquer les copies de ces images, puisqu'il y en avait pas mal. Et du coup, ils ont accepté, à notre grande surprise, et justement parce que les services de communication n'étaient pas encore opérationnels sur cette frontière, ils nous les ont donnés, jusqu'à ce que je sorte des locaux de ce poste de surveillance. Je me suis demandé si un gradé n'allait pas descendre des étages pour nous dire non, pas question. Mais non, voilà, on a réussi à les emporter.
Éléonore, tu voulais...
Je pense que ces images-là, elles sont partout dans nos pays, en fait, maintenant. Alors, c'est la police des frontières, mais c'est les manifestants, c'est... Moi, sur Internet, j'ai beaucoup regardé ce type d'images, celles que toi, t'as utilisées. Évidemment, pas exactement celles-là, mais de ce type-là. La guerre, c'est le laboratoire de l'exercice du pouvoir, en fait.
Absolument.
Et voilà, je suis d'accord avec toi que ça renvoie... Ce qui est intéressant dans ton film, c'est que par ces images-là, le statut de cette politique-là devient politique de guerre, quoi. Enfin, devient un statut guerrier. Mais je crois que ça va au-delà des migrants. C'est-à-dire que on tire pas encore. Alors, c'est vrai que moi, je me suis dit en regardant ton film, tiens, il y a pas la croix quand même. Ils regardent, mais il y a pas la croix au milieu. Il y a de tes images, j'ai pas l'impression. Peu importe en fait. Ça m'a rappelé aussi, tu sais, ce film d'Ackerman, De l'autre côté. Je crois que moi, c'est la première fois que j'ai vu des images de ce type sur la frontière américano-mexicaine. Je sais pas si t'as vu ce film.
Oui.
Ouais. Où il y a des longues images de surveillance comme ça.
Oui. Aussi. Et oui, tu as raison de dire que c'est pas une question qui se résume aux migrants. Hein, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'intéresse tellement à cette question. C'est que je pense que les migrants sont aux avant-postes de bien d'autres choses qui nous attendent. Ils sont souvent, en avant-poste. Donc, quand on peut traiter des migrants de cette façon, on peut se dire que un jour ou l'autre, ça fera un d'entre nous.
Oui. Oui, complètement. Et je me disais aussi, il y a une différence fondamentale entre nos deux démarches, c'est que ces images-là, elles sont recontextualisées dans ton film. C'est-à-dire qu'on voit le policier qui les regarde aussi. Enfin, ou si on le voit pas, on l'entend à un moment. Alors que dans mon vie, il y a la tentation de mettre quand même le spectateur dans l'œil du viseur, mais mon but n'était pas de l'assigner à la place du tueur, mais quand même de le mettre suffisamment longtemps dans l'œil du viseur pour que ça devienne une position troublante aussi pour son propre regard. Oui. Voilà.
À la fois ambigu, parce que moi, ce qui m'a frappé dans ton film, c'est à la fois comment dire, elle nous met très mal à l'aise d'être dans cette position-là de voyeur, et en même temps, moi, l'œil de cinéaste, en tout cas, il y a des moments où je les trouve très belles.
Ah oui, c'est une vraie question. ça interroge sur la fonction de la beauté, quand même, du coup.
Oui, tout à fait.
Et les tiennes aussi sont hyper belles. Elles sont hyper belles.
Effectivement, je les contextualise, mais il y a un moment donné où elles prennent leur autonomie.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que ça devient justement des images et ça devient autre chose. D'ailleurs, bon, il y a une musique, etc. Donc, je les déréalise un petit peu aussi. Et comme si tout d'un coup, ces silhouettes devenaient des espèces de fantômes et que ça prenait tout à fait une autre dimension. Et je me sers évidemment de cette beauté plastique aussi des images.
Oui. J'ai remarqué ça. Et je trouve ça important, même si ça crée parfois avec les spectateurs des débats houleux.
Oui.
Parce qu'au fond, ils peuvent être tentés de nous reprocher, même à toi, à ce moment-là du film, d'avoir esthétisé, au fond, hein,
oui.
D'avoir profité de la... Alors que moi, je pense... En tout cas, mon propos au bout du compte, c'est que cette esthétique, moi aussi j'ai été piégée, un peu fascinée, c'est sûr, quand j'ai travaillé sur ces images, fascinée et horrifiée à la fois.
Voilà, c'est mais ça, exactement ce qu'on ressent quand on les regarde, c'est une fascination et en même temps être horrifiée de cette fascination.
Mais je pense que ces propriétés esthétiques, donc, elles ont une fonction dans le projet de mort, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont, elles subliment la mort, elles subliment la violence, elles l'embellissent, au fond, pour celui qui les regarde aussi, donc pour le militaire ou le policier.
Donc ça adoucit, finalement.
Ça adoucit, ça amortit, ça...
Alors, dans le cas des miennes, elles sont... Bon, la mort est présente, mais elle n'est pas, je dirais, effective. Mais du coup, c'est comme si, tout d'un coup, ces silhouettes étaient... Enfin, ces êtres humains qui sont réduits à des silhouettes brillantes sur un écran, c'est comme si elles appartenaient à un autre monde qui n'était pas tout à fait le nôtre, en fait.
Mmh.
Et c'est ça que je trouve intéressant, que ces images nous mettent en avant.
Oui, ça fictionne le réel quand même aussi pour celui qui regarde. Enfin, je veux dire,
ça fictionne le réel, mais ça raconte aussi quelque chose du réel. Hein, comme si, mais finalement, ces personnes-là ne sont pas tout à fait des personnes comme les autres. Quoi. C'est vraiment. Elles sont déjà dans une espèce d'autre monde, un peu intermédiaire. Entre
elles sont déjà mortes. Oui, elles sont déjà mortes en fait. C'est des fantômes errants.
Un peu déjà mortes, ou pas tout à fait vivantes. Enfin, voilà.
Oui, tout à fait. C'est l'autre fonction, c'est que ça les destitue d'une certaine humanité, quand même.
Voilà, et ça, c'est exactement ce qui se passe quand on considère les politiques migratoires. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des chiffres, ce sont des flux, des liquides, mais c'est pas vraiment des humains, quoi.
Et je vous propose maintenant de faire la première pause musicale, parce qu'on va écouter la musique « Rentrez chez vous » de Big Flo et Oli, qui raconte assez bien ce qu'on vient d'aborder. Je vous laisse écouter.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule, fils, c'est fou sans camisole.
Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Bien sûr, le bruit des wagons bondés me rend insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me donne des haut-le-cœur. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barre. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tatou dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. De Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard. Ils sont tous partis sans moi, mais j'ai les contacts d'un passeur. Une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr, on ne voyage pas seul. Il me dit, choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste. Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis sur un bateau gonflable. On navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit. Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos zappes et la laisse sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli. Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».
Accueillir tous les Français. Ils arrivent par milliers. Vous avez un minimum d'honneur. fois des Français. Je suis désolé, avant qu'ils arrivent chez nous, tout allait bien. Donc on ne peut pas non plus accueillir des gens qui viennent chez nous pour foutre le bordel.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et nous venons d'écouter la chanson « Rentrez chez vous » de Bicloué Oli.
Nous sommes toujours avec Éléonore Weber pour son film « Il n'y aura plus de nuit » et avec Nathalie Loubert pour son film « La mécanique du flux » dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet.
Éléonore, les images de ton documentaire, donc on l'a dit, elles sont filmées depuis un hélicoptère, donc depuis le ciel, avec le point de vue des tireurs, des militaires, et nous n'avons accès qu'à leurs images à eux, dans tout le film. Donc pourquoi est-ce que tu as fait le choix de n'avoir que ce point de vue unique ?
C'est bien que tu soulignes que c'était un choix. J'aurais pas pu. C'est marrant parce que je pensais, je réponds comme ça, mais en voyant la mécanique des flux, je pensais tiens, c'est le contre-champ de mon film, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la parole dans mon film l'ont dans celui de Nathalie, cette parole. Moi, je voulais vraiment ausculter les images du pouvoir et le fait, leur hégémonie, au fond, hein, et comment ça fonctionne. C'est ça qui m'intéressait. Par moments, dans le montage, on a essayé des contrepoints. On avait trouvé par exemple des images prises au sol qui circulaient aussi sur Internet. C'est des combattants qui filmaient l'hélicoptère en train de les bombarder, en fait, hein, avec leur petite caméra, leur téléphone. Donc on avait créé cette bascule par moment. Essayé. Comme diverses choses qu'on a essayées. Et vraiment, je n'ai pas trouvé ça intéressant. D'abord, j'ai trouvé ça mensonger. Moi, au fond, j'adopte le point de vue des gens, non pas que je connais, je ne les connais pas personnellement, mais c'est nous, c'est nos démocraties qui mènent ces guerres-là. En volant une image à un combattant irakien, d'abord, je ne sais pas qui c'est, ça peut être... je sais pas, un terroriste horrible aussi, hein, qui a pris cette image-là. Et j'avais l'impression, là, de m'approprier un regard et une parole qui n'aurait pas été la mienne. Éthiquement, presque, ça m'aurait posé plus de problèmes. Et puis, c'était mensonger, parce que le principe même de ces images, c'est qu'elles sont sans contre-champ. C'est ça, au fond, l'explication la plus nette, peut-être, que je peux vous donner, c'est que Danel avait dit, quand il a découvert les premières images de la première guerre en Irak, désormais, les images du pouvoir sont sans contre-champ. Et c'est une des caractéristiques principales de ces images de guerre, prises, dans mon cas, par les hélicoptères, mais c'est exactement pareil si c'est des images de drones, évidemment. Il n'y a pas de contre-champ possible, il y a une toute puissance de l'œil... de notre œil, enfin je dis notre, c'est pas le vôtre, c'est pas le tien ou le mien, mais en tout cas, ce sont nos pays quand même. Hein. Et en face, il y a pas, on ne peut pas porter un regard sur l'œil du puissant, ni sur l'hélicoptère, ni il y a pas. Et c'est aussi ça qui moralement dépossède le pilote de la capacité qu'il pourrait avoir à juger ses propres actes. Parce qu'en fait, il faut être vu, il faut se voir en train de voir pour commencer à élaborer une conscience morale, en fait. Hein.
Et est-ce que il n'y a pas quelque chose de divin un peu dans ce regard, cette vision zénitale, ces êtres humains réduits à des choses finalement assez lointaines et un peu abstraites, et puis peut-être aussi le commentaire finalement qui a aussi ce côté un petit peu de paroles données, si tu veux, c'est pas eux qui prennent la parole, c'est toi qui donne une parole. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un petit peu, voilà, de quand tu dis tout puissant, d'ailleurs, c'est un peu ça, il y a un côté un peu divin, un peu de point de vue de...
Voilà, ça c'est sûr que non, c'est la métaphore divine, on peut l'utiliser dès qu'on parle de ces images là évidemment, cette toute puissance renvoie à l'œil de Dieu qui voit tout, au fantasme de tout voir et à cette toute puissance là ça c'est sûr, mais toujours quelque chose résiste quand même. Moi je crois que justement le film, tout le film montre qu'on ne peut pas tout voir, que plus on voit, moins on voit. C'est ça tout le propos du film, c'est l'échec de cette toute puissance qui est en jeu dans le film, et jusqu'aux images de la fin qui créent un jour faux, hein, ces images ultra sophistiquées qui permettent de recréer intégralement le jour alors qu'il fait nuit noire. J'aime cette idée et cette réalité dans l'image que on n'arrive pas à effacer les étoiles qui continuent, qui persistent à briller, et que donc toujours quelque chose mettra en échec ce fantasme de tout voir. Ça, c'est le propos du film. Après, je crois pas, comment dire, je crois pas avoir choisi une manière un traitement de ces images. C'est pas parce qu'il y a un commentaire que ça met en jeu la toute puissance, puisque comme je te le disais tout à l'heure, justement, j'ai dialectiser ma position par ce dialogue. En effet, c'est un dialogue sur le mode indirect. Mais rapporté, comme tu dis, en tout cas, c'est Pierre V dit que, etc. Mm-hmm. Mais tu peux me soupçonner de ça. Je ne pense pas que ce soit lié à la toute-puissance. C'était plutôt lié au fait qu'un témoignage direct... Mon sujet, ce n'était pas non plus le pilote. Mon sujet, c'était de créer une pensée à partir de ces images. Mm-hmm. Voilà. Comment permettre au spectateur d'avoir l'espace de penser cette toute puissance, de penser ses propres ambivalences, justement son propre plaisir à regarder ces images, son propre rapport fascinatoire à elle. Il y a quand même plein de questions dans ce texte. C'est pas un texte qui assène des vérités. C'est un texte qui met en jeu deux positions, un dialogue avec des qui est pas très affirmatif, quoi. Voilà. Donc je trouve pas que mon commentaire soit de l'ordre de la toute puissance.
Non, mais c'est vrai que
qu'il est à la troisième personne quand on parle du personnage. Il, donc il y a un côté presque fictionnalisant un petit peu dans cette position.
Oui, disons que je le rends absent, mais parce qu'au fond, le pilote est absent. Le pilote, c'est cette espèce de... D'abord, c'était un pilote, c'était pas celui qui avait commis ces meurtres, avec qui je parlais, moi. Donc c'était... Et c'est vrai que ça devient cette figure en creux, mais cette figure en creux, elle permet de penser peut-être la fonction de ces images et la façon dont... Et c'est vrai que j'ai pas choisi un mode informatif. J'ai ni direct ni informatif.
Oui.
Mais et ça, c'est...
Et dans la même manière que tu as choisi de ne pas mettre les images que tu avais trouvées de combattants sur place, voilà, avec les hélicoptères, tu as choisi aussi je sais pas, hein, là c'est vraiment des hypothèses, mais tu aurais pu aussi essayer de leur donner la parole. Et c'est un choix que tu n'as pas fait aussi.
À qui ?
Aux combattants sur place.
Bah non, mais la discussion. C'est étonnant qu'on demande ça. Si j'avais donné la parole, on m'aurait reproché de parler à la place des gens, même. Enfin, parce que c'est pas parce qu'on donne la parole qu'on parle pas à la place des gens. C'est alors là, bon, on peut discuter avec Nathalie mais quand on va filmer et recueillir la parole des gens, ça pose aussi tout un tas de questions
on
éthiques. J'ai pas de problème avec ton film, hein, lié à ça. Mais je veux dire, c'est le choix, c'est d'ausculter. C'est quand même un geste politique assez clair, même s'il n'est pas dans la pure dénonciation, d'ausculter les images du pouvoir qui sont les nôtres. Pourquoi est-ce que quand un film adopte ce point de vue, on devrait systématiquement lui reprocher de ne pas avoir fait parler les victimes?
C'est pas du tout un reproche, c'est une interrogation sur justement, voilà, c'est juste pour, au contraire, que tu nous expliques. Plus, en fait, les choix, ils sont toujours à un moment, on fait des choix. Et justement, les rendre clairs, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas du tout un reproche. Je veux dire, au contraire, les choix, ils sont nécessaires et c'est ça qui fait que ton film est très fort.
Moi je pense qu'éprouver cette distance... Pardon, je fais juste une phrase et je te laisse. Évidemment, éprouver cette distance jusqu'au bout et comprendre ce que c'est que ces meurtres à distance, au fond, hein, et que cette technologie du regard... Pour moi, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est justement se saisir du fait que ces êtres humains ne sont plus que d'infimes silhouettes dans le regard de l'Occident quand il fait la guerre. C'est ça que j'étudie, moi, ou que je dénonce d'une certaine façon en montrant les ressorts. Donc c'est presque contradictoire, je ne vais pas revenir au sol. Mon propos, c'est de montrer qu'on ne va pas au sol, et comme le disait Nathalie, qu'en plus on délire le monde auquel on fait la guerre. On le délire parce que ces images, elles sont hallucinatoires, elles sont proprement hallucinatoires. Depuis le départ, on dit silhouette fantomatique, zone de brillance, etc. La vérité, c'est que ces caméras, elles sont censées élucider le réel avec une très grande objectivité, percer l'opacité de la nuit, l'opacité des buissons. Et qu'est-ce qu'elles produisent comme image ? Une image qui délire. Une image hantée, une image, un monde qui paraît fantastique, ou ça pourrait être un film de science-fiction. Ça, c'est intéressant aussi politiquement de se dire, et c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure, ces images, elles permettent de délirer l'autre, en fait.
Nathalie, tu voulais rebondir ?
Oui, je disais que oui, ça me paraît totalement cohérent, le parti pris d'Éléonore. Moi, mon parti pris était radicalement différent. En fait, moi, ces images, elles ne sont pas au cœur du film. En fait, elles ne sont pas le sujet du film. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était opposer cette clôture et ce contrôle et cette volonté de maîtriser et le désir de liberté et le désir de circuler des migrants. Donc, le film, il est tout le temps là dans cette opposition, et les images de contrôle sont là comme un des moyens de contrôle divers et variés. Et donc, c'est deux démarches complètement différentes. Donc, voilà, moi, ça se justifiait que j'ai peut-être les deux côtés, mais dans le film d'Éléonore, je comprends parfaitement que ça se tient complètement, c'est complètement cohérent comme ça, quoi.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Mais je trouve que c'est intéressant de toujours de revenir à la question du choix, et justement au fait que c'est pas par hasard qu'on ne les entend pas, et que ce n'est pas, et donc c'est pour ça que la question se pose et que tu as une réponse très cohérente, et je trouve ça très intéressant de l'expliciter. Et Nathalie, donc voilà, donc dans ton film, effectivement, juste pour revenir un petit peu sur ces images, il y a un moment qui n'est pas vraiment ce moment de surveillance, mais qui est un moment qui, moi, m'a interpellée. C'est le moment où il y a des images d'une personne qui se fait arrêter dans un camion. On va écouter un extrait. Et après, on pourra le commenter un petit peu si tu veux. Oui. Donc c'est un moment qui est plutôt vers le milieu, la fin du film. C'est un moment où il n'y a pas de parole, en tout cas l'extrait qu'on a pris. On n'entend vraiment que des sons, mais au son, on peut se figurer finalement ce qui est en train de se passer, puisque on entend très clairement un camion, un chien, des cris, et puis la musique qui accompagne ce moment dramatique. Donc on l'écoute tout de suite. Donc on vient d'écouter un extrait de La mécanique des flux de Nathalie Loubert. Nathalie, dans cet extrait, donc dans ce moment en fait dramatique, c'est vraiment un moment très fort, qui est d'ailleurs très bien monté, vraiment c'est très beau, enfin c'est magnifique, mais en même temps c'est très, violent. Et moi, on avait dans ce qu'on disait. Alors, on reviendra peut-être un peu plus tard, certainement, sur le fait que justement, toi, tu donnes beaucoup la parole aux migrants. Tu vas à leur rencontre, tu les écoutes aussi parler entre eux. Donc, il y a beaucoup de moments où on a ce contre-champ. Mais dans cette séquence-là, moi, je me suis interrogée sur ta puissance en tant que réalisatrice. En tant que et par rapport à cet homme qui se fait attraper par la police et du coup voilà comment toi tu arrives à gérer en fait ces moments de violence et toi en tant que réalisatrice de les intégrer de pas les intégrer comment tu as réfléchi cette question là
ben ça a été une séquence extrêmement difficile. En fait, on s'attendait pas à ce qu'ils trouvent quelqu'un dans le camion. On voulait filmer les contrôles, hein. C'était un peu comme ça, un leitmotiv dans le film, hein. Les contrôles, les appareils de contrôle, les hommes qui contrôlent, les chiens qui contrôlent, etc. Mais il y avait quand même très peu de chances pour qu'on tombe sur un moment où ils en trouveraient un. Et puis, c'est arrivé. Et là, Joël, qui est donc mon opérateur, s'est retrouvé avec ça, est-ce que je filme, est-ce que je filme pas, et donc la séquence est pleine de ça en fait, hein. Il s'écarte, il filme le chien, il revient, c'est d'une violence extrême aussi pour celui qui filme parce que il a bien conscience d'être dans une position aussi lui d'être presque du côté de ceux qui contrôlent en fait. Mm-hmm. Et du coup la question s'est posée en effet de la monter ou de pas la monter cette séquence. Il se trouve que le garçon qui a été découvert cette fois-là faisait partie du groupe des Soudanais que nous avions filmé et qu'on voit aussi dans le film à un autre moment.
On voit tout à la fin, c'est parler. Ça.
Alors, on le voyait pas en train de parler, mais il faisait partie de ce groupe-là. Et du coup, quand on a filmé cette séquence, on a montré la séquence au groupe. En leur disant, est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous pensez qu'on peut monter cette séquence? Est-ce que, voilà, ça a fait l'objet d'une longue discussion. Et finalement, le groupe a décidé qu'il fallait la montrer. Mm-hmm. On a décidé de le faire et j'ai essayé de dans la façon de monter la séquence, de mettre en évidence cette violence-là, y compris de la position dans laquelle on se trouve, nous, en tant que filmeurs.
Il y a notamment des ralentis. Je ne sais pas si c'est des ralentis. L'image est un peu déformée. On a l'impression que vous êtes comme... que celui qui filme est comme pris d'un vertige, en fait.
Oui, là, c'est le sentiment exactement. J'ai essayé de garder cette façon un peu chaotique qu'il a eu de filmer, parce que ne sachant pas s'il devait filmer, pas filmer, revenant, repartant. Et donc j'ai essayé de garder ce côté chaotique-là, et qui ajoute finalement un peu à la violence de la séquence en elle-même et de la position dans laquelle on se trouve. Donc le choix a été fait de la montrer parce qu'elle dit bien aussi la violence du contrôle, quoi. Finalement, ce que j'avais envie de raconter. Après, ça s'est fait avec l'accord, sinon de celui qui en a été l'objet, puisqu'il n'était pas là au moment des délibérations. Il était sans doute détenu quelque part, mais c'était un groupe qui fonctionnait de manière très collective, c'est-à-dire que même notre présence et le fait qu'on les ait filmés lors de ces discussions autour du feu avaient été discutés et votés par le groupe. Mmh. Donc c'était une décision qu'ils avaient prise parce qu'ils pensaient que c'était aussi une manière pour eux de pouvoir dire des choses. Et donc évidemment la conversation qu'on a filmée autour du feu était très orientée en fonction de ce qu'ils avaient envie de nous dire, hein, puisque d'habitude ils faisaient ce genre de soirée, enfin tous les soirs, hein, ils faisaient ce genre de soirée où refaisaient le monde, mais ce soir-là où ils ont décidé qu'on pouvait filmer ce moment-là, ils nous ont adressé une parole qui les intéressait, quoi. Qu'ils avaient envie de nous communiquer.
Et d'ailleurs, voilà. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant parce que ton film se termine là, sur cette discussion où, finalement, pour moi, c'est le moment ou en laissant le moins victime et le plus partie prenante. Ils ont une analyse très, très consciente de ce qui se passe en Europe, presque plus que nous, oui. certaines fois. Et c'est très intéressant de les voir aussi, aussi forts, en fait, et aussi conscients, et aussi, alors que jusque-là, souvent, c'est plus des parcours de très chaotiques, de personnes qui souffrent, qui errent, que tu as pu recueillir,
dans le début du film. Hein,
oui, en tout fait, à fait.
Toute cette parole.
Tout poétise. Mais c'est très intéressant.
C'est pour ça que
politise.
J'ai voulu finir aussi dessus. Mm-hmm. Et puis aussi parce que, finalement, ils finissent par parler même, eux, de l'Europe.
Oui.
Donc ils inversent le regard, en fait. Tout le film, c'est un regard qui est posé sur les migrants, entre autres par nous, mais aussi par les caméras thermiques, je vais dire. Et que là, tout d'un coup, dans cette discussion, le regard s'inverse et c'est eux qui parlent de nous. Donc c'était vraiment intéressant. Oui, c'est Sciences Po Soudan, comme dit comme disent certains de mes copains. Voilà, ce sont des jeunes étudiants ou jeunes professionnels. Voilà, il y en avait un qui avait fait des études de relations internationales, un autre qui était avocat, l'autre qui était ingénieur, etc. Enfin voilà, donc ils avaient une culture et la possibilité donc d'analyser leur propre vécu, quoi, et de l'insérer dans un regard géopolitique quasiment. Donc oui, c'était précieux pour moi dans ce film. Je dois dire que je n'avais pas imaginé que ça serait possible, parce que je n'avais pas encore rencontré pendant mes repérages de migrants qui étaient capables de ce regard-là, mais c'était évidemment béni pour moi.
Mmh. Je trouve qu'il y a un autre moment où le discours échappe à celui de la victime, en tout cas de la souffrance du trajet. Et pour moi, il compte beaucoup, ce moment-là. C'est, je ne sais plus qui, je ne pourrais pas dire quelle personne, mais quelqu'un raconte à quel point la migration est liée à la nécessité du vital, du voyage, hein, et du
oui,
rêve. Bon. Et ça, je pense que politiquement, c'est ultra important de...
Tout à fait. Lui, il n'est pas un réfugié, il ne fuit pas la guerre, il veut voir le monde et il refuse d'être assigné à résidence. Et pour lui, la vie, c'est bouger, c'est voir le monde, c'est une revendication que je trouve vraiment hyper intéressante, quoi.
Mais hyper intéressante et qui échappe en effet au discours, parce que le discours... compassionnel de gauche dans nos pays, c'est de quand même d'assigner l'autre à son besoin, en fait, à son
oui,
besoin, à sa nécessité. Et ça, bien sûr qu'elle existe, cette nécessité. C'est évident qu'elle existe aussi, faut pas la nier. Mais si on réduit sans cesse l'être à ça, c'est aussi une forme de négation politique, quoi, de ces...
Oui, tout à fait. De toute façon, dans le film, d'une manière générale, j'ai essayé à chaque fois que possible de mettre ces personnes que j'ai filmées en situation de sujet plutôt que en situation de victime. Enfin, voilà, ils sont tous des sujets de leur propre vie, quel que soit ce à quoi ils réagissent, en fait, que ce soit fuir la guerre, fuir les persécutions politiques, ou avoir envie d'être libre et de voyager, ou etc. En tout cas, c'est des gens qui prennent leur vie en main et qui décident, quels que soient les obstacles, d'être les sujet de leur propre vie et de ne pas subir la vie que ce système voudrait leur imposer, en fait. Et donc à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient des sujets à la fois dans ce qu'ils nous racontent, mais aussi dans la façon dont ils nous racontent les choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai essayé de discuter avec eux de la mise en scène de leurs propres paroles. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai décidé, voilà, je vais vous poser là, vous allez dire ça à l'intérieur d'un cadre, etc. C'est à chaque fois quelque chose qui s'est négocié de façon complètement différente en fonction des gens, en fonction des situations, etc.
Mmh. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et on revient vers vous dans quelques minutes. On va écouter Bob Dylan, Masters of War. Maître de guerre en français. Voilà.
Yeah. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, dans l'émission de l'association de cinéastes documentaristes ad hoc. On a déjà traité le sujet. Donc nous sommes avec nos deux invités, Nathalie Loubert pour son film La mécanique des flux et Éléonore Weber pour son film Il n'y aura plus de nuit. Et nous venons d'écouter Masters of War de Bob Dylan. Voilà, je l'ai dit un peu mieux que la dernière fois. Donc, on va parler maintenant de construction du film, de la manière dont, dont chacun des deux films se sont construits, s'est construit. Voilà, donc aborder un petit peu la question de leur narration et comment les réalisatrices ont réfléchi cette narration. Comment finalement ces deux films qui n'ont pas de, qui ne suivent pas de personnages particuliers. Et du coup, il fallait réfléchir à un début, un milieu, une fin. Et donc, est-ce que, Éléonore, tu peux nous dire un petit peu comment tu as réfléchi cette narration? Comment tu as construit ton film? Comment tu nous entraînes en fait dans cette histoire? Comment tu l'as réfléchi? Comment, par exemple, tu as construit la voix off? Enfin, voilà. Est-ce que c'est la voix off qui a guidé la narration? Comment est-ce que ça s'est fait?
Je pense que l'une des principales difficultés de construction du film ou d'élaboration d'un propos sur une certaine durée, c'est que ces séquences de prise dans l'œil du viseur se ressemblent toutes. Le scénario, en fait, c'est à peu près toujours le même. Quelqu'un fuit ou quelqu'un se cache ou il est traqué, puis après on tire ou on ne tire pas. Donc ce que j'avais moi, c'est dans mes séquences, c'est un scénario qui se répète. Donc la question, c'était de faire évoluer quelque chose malgré tout, puisque ça se dépliait dans le temps, et c'est vrai que c'était pas une évidence au départ que je pourrais en faire un long métrage, par exemple. Beaucoup de gens en doutaient. D'ailleurs, j'avais une première version de 40 minutes, et on se disait, bon, si j'ai absolument tenu à en faire un long métrage, c'est pas pour le principe ou pour le, c'est pour qu'il sorte en salle. En fait, moi, mon but, c'était que ces images-là, un de mes buts, mais il était très important, c'est que ces images-là peuvent côtoyer toutes les autres formes de récits. C'est-à-dire comme si elles étaient l'envers des autres images. J'avais, mon projet, c'était que quelqu'un, à la limite, sorte d'une comédie romantique, puis aille voir ce film, quoi, hein, et qu'il y ait cette fonction terrifiante de l'image côtoie les fonctions plus réconfortantes des récits. Donc il fallait que je fasse un long métrage. Mais c'est important parce que c'est pas une obligation. Avec un tel dispositif, ça peut être plus court, ça peut être. Et c'est vraiment cette voie construite autour de ce dialogue, sur le mode indirect, qui a fait récit, qui a permis de faire récit. Mais c'est pas un récit avec un personnage, c'est un récit avec des questions qui se déplient, qui reviennent, auxquelles et lui et moi on répond autrement. Enfin, on module hein, quand même le type de questions qui se posent. Et c'est vrai qu'on peut. Tu disais tout à l'heure qu'au fond, cette autre personne, est-ce qu'elle existe vraiment dans mon dispositif ? C'est une question, hein. On pourrait imaginer que je l'ai complètement inventé, les gars. C'est pas. Il se fait que non, parce que je pense que j'avais besoin d'appui. On doit sentir quand même que c'est des appuis réels et que je m'appuie.
Oui, il a l'air de connaître quand même.
Sur des choses. Oui, mais j'aurais pu. On ne sait pas ce que j'ai mis dans sa bouche. Si c'est des choses qu'il a dites ou si c'est des choses que j'ai eu envie qu'il dise.
Non, mais, on aurait pu imaginer d'ailleurs que c'était plusieurs avec qui tu avais pu parler et que tu avais synthétisé et fait un personnage fictif qui serait un amalgame de tous, quoi.
Voilà. Il n'y a pas la question de la vérité de ce qui est rapporté n'est pas dans l'éthique de mon film, c'est pas ça. La question de l'éthique du film, pour le coup, enfin c'est une, mais dans les narrations documentaires, c'est quand même une question importante. C'est plutôt, est-ce que à quelle place je mets le spectateur face à ces images et à quel point je rends l'expérience supportable et supportable pour pouvoir penser, parce que si c'est que mais suffisamment insupportable pour que quand même ça produise de l'inconfort, un inconfort nécessaire, et que en même temps il n'y ait pas de complaisance dans le spectacle de l'horreur, quoi. C'était ça tout le sujet de la construction, et d'osciller entre des moments où on est vraiment dans le viseur et dans la mission, et des moments où le regard, la caméra se détache du viseur et on a l'espace de penser ces images comme provenant d'un regard. Il y a la question du regard. Mon intrigue, c'est autour de la fonction du regard.
Et d'ailleurs, cet aller-retour aussi se fait grâce au son, puisque des fois, on a le son in. Mais très très souvent, en fait, on l'a pas. Alors c'est parce qu'il n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'il existe
parfois
toujours.
Il n'existe pas, parfois il n'est pas là, mais souvent il est là, et parfois je l'ai coupé, en effet. Je pense qu'une des caractéristiques de ces images, c'est qu'elles sont muettes, quand même. C'est-à-dire que l'autre, on n'entend jamais le bruit de l'autre, de celui sur lequel on tire. Et c'est comme si on s'entendait, c'est comme un peu à la radio, remarque, on s'entend que nous. C'est-à-dire qu'ils entendent ce qui se passe dans le cockpit, les radios, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Mettre systématiquement le in, c'est-à-dire les radios, les Américains, j'avais quelques séquences françaises, mais pas beaucoup, d'ailleurs on s'en rend compte, il n'y en a qu'une finalement que j'ai gardée, c'était beaucoup trop donner la parole pour le coup. Là c'est vraiment l'équilibre éthique du film, il est là, quoi. Si à chaque fois qu'on est dans une séquence, je donne la parole aux gars qui commentent, c'est eux qui... Là du coup, c'est leur point de vue qui gagne sur le film. Donc souvent j'ai coupé, parce que je... Il s'agissait pas de les entendre. Il s'agissait de voir ce qu'ils voient. Et de se voir nous-mêmes. Se voir soi-même en train de voir.
Alors, on va écouter un petit...
Je veux le dire, Anne. Voilà, je voulais intervenir. On m'a pas encore entendu parce que j'ai pas autant préparé cette émission que mes compagnes, mes camarades. En fait, je voulais revenir sur cette question du regard. Et revenir aussi un petit peu à quelque chose dont on a parlé au début, le regard divin, le positionnement divin. Et moi, j'avoue que cette narration que tu as réussi à construire, elle m'emmène dans un crescendo d'horreur, de réflexion. Et ce qui est le plus terrible, c'est un moment, et ce n'est pas dit dans ton film, personne n'y pense, mais moi, ça me le provoque, cette pensée. Et du coup, je me dis, ouf, c'est que cette guerre complètement déshumanisée à travers des images thermiques, personne ne se voit vraiment, et ben, il s'avère que ces images-là, mais très très souvent, ceux qui les voient se plantent, les analysent mal. Et tirent sur des paysans avec leurs râteaux qui prennent pour des fusils. Et donc, on comprend bien que, oui, quand même, il y a des regards, il y a des humains dans ces avions, dans ces hélicoptères, qu'il y a même visiblement une hiérarchie. Avant de tirer, on demande, on en informe la hiérarchie, on en a l'autorisation. Mais finalement, on a l'impression quelquefois d'être devant des gens qui sont eux-mêmes dans un rêve, un cauchemar, et puis dans leur illusion, quoi. Enfin, illusion d'optique, illusion de tout ce qu'on veut. Et voilà, cette réflexion qui me vient à ce moment-là du film, c'est un jour, on arrivera à faire en sorte que ça soit les machines qui tirent, la caméra elle-même, et elle va faire moins d'erreurs. C'est fou. Elle reconnaîtra mieux le fusil que le râteau.
Bah moi je suis pas sûre.
Alors, disons que c'est une pensée plus terrible qui m'est venue.
Non, mais je comprends bien pourquoi tu as pensé ça et on peut le craindre. Mais j'ai l'impression que l'erreur, elle est pas dans le fait qu'il y a un humain, mais elle est dans la vue elle-même. Moi j'ai l'impression que plus on voit, moins on voit. Et puis elle est dans le réel aussi. C'est-à-dire que quand tu dis, ça leur arrivait de tirer sur quelqu'un qui avait un bout de bois ou un pied de caméra, c'est la séquence, la fameuse séquence de WikiLeaks. C'est quand même étonnant parce que même toi ou moi, quand on regarde, on dirait tout de suite c'est un fusil. Le contexte nous fait c'est une folie d'interprétation. Mais le réel se camoufle aussi. C'est-à-dire que dans des pays où tout le monde est armé, par exemple, où tout le monde est armé parce que c'est comme ça, il y a tellement la guerre partout, mais ça ne veut pas dire que c'est un combattant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une femme qui a une Kalachnikov dans son sac de course, je veux dire, et alors c'est pas un ennemi à ce moment-là. Donc en fait, il n'y a aucune machine.
On peut avoir une caméra qui tire, comme celle qui a tué Massoud.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le réel pratique le camouflage. Disons que l'erreur, elle n'est pas dans la machine qui se trompe. La machine, même si elle se trompe pas, elle se trompe quand même d'adversaire dans ces cas-là qu'on décrit, où des civils peuvent être armés, par exemple. Donc il y a pas, la possibilité d'erreur est illimitée à mon avis. Et ça ne veut pas dire que chaque fois c'est une erreur. Moi, j'ai justement tenu à faire un film où il n'y avait pas que des bavures. Je me suis pas dit, là, je prends cette séquence parce que c'est sûr, on peut se dire que c'est un civil. Parfois, on voit bien que c'est des talibans armés qui sont peut-être dans une opération militaire et qu'ils ont tiré. Mais même dans ces cas-là, la question de comment on tue nos ennemis se pose, je trouve. C'est-à-dire, on les tue, ils ne nous voient pas les voir. Hein, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils sont vus. On leur tire dans le dos, quoi. Le type en blanc, là, qui se balade à un moment et qui voilà. Lui, bah, peut-être qu'il y avait une enquête avant et qu'en effet, il fait partie d'un groupe. Mais enfin, n'empêche que quand il est tué, il marche tranquillement sur une route, quoi.
C'est ça l'effroi qui est causé par ces images, en fait. C'est d'imaginer ces personnes qui ne savent pas qu'elles sont dans le viseur, en fait. C'est ça qui produit l'effroi, je trouve.
Et après, moi, j'ai l'impression que plus les technologies sont sophistiquées, plus on a besoin d'un sujet pour les mettre en œuvre, en fait. Mais ça, c'est une vraie question. Je ne crois pas à l'avènement des soldats robots partout, bien sûr. Les algorithmes envahissent notre vie. Mais je ne suis pas sûre qu'ils soient capables d'évacuer totalement la décision humaine, même dans la guerre. On verra, hein, ça, je sais pas.
Alors, je propose qu'on entende un petit extrait de ton film. C'est la toute fin. On l'écoute et on le commentera après.
Il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe ou de la lumière du soleil. Il n'y aura plus de distance, plus rien qui soit lointain ou qui soit proche. Il n'y aura plus d'abri ni de recoin. Nulle part où se cacher. Plus de recours ou d'échappatoire. On distinguera des silhouettes. Mais on ne verra pas le visage des gens. Il n'y aura plus de réciprocité, plus de face à face.
Alors, dans cet extrait, c'est vraiment à la fin, et je pense que c'est intéressant justement pour parler, en parlant construction, de voir comment ton film finalement s'ouvre à la fin. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? C'est pas un film sur la guerre, effectivement, ce qu'on a dit beaucoup de fois. Il y a beaucoup de guerres, mais c'est pas que ça. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi de le terminer ?
Bah c'est quand même pas tout à fait la fin. Je crois qu'il reste bien un quart d'heure, 20 minutes après. Mais c'est vrai que ça. Pardon, mais c'est parce que c'est pas la conclusion.
J'ai pas exactement
mais c'est vrai
calculé.
Que ça ouvre. Non, ça ouvre un nouveau champ de questions. Là, ce texte. Là, en tout cas, il part d'un verset de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs le titre du film, c'est « Il n'y aura plus de nuit ». Puis après, je m'amuse à le décliner autrement. Et « Il n'y aura plus de nuit », donc c'est le début d'un verset de l'Apocalypse. Mais peut-être qu'au fond, le film raconte l'inverse. C'est qu'on ne pourra jamais supprimer la nuit. Et je pense que quand j'ouvre avec cette question, qui là est plus abstraite et même un peu poétique, quoi, au fond, sur un avenir comme ça imaginé, c'est pour qu'on comprenne ensuite qu'on ne pourra jamais supprimer totalement la nuit, du fait justement de ces étoiles qui persistent à briller, même quand on a annulé toute lueur, enfin, toute trace de nuit. Voilà. Comme je devais faire court, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Tu as répondu à ma question, je te remercie.
Et Nathalie, toi tu commences ton film par des policiers donc à la frontière de l'Europe et tu finis avec le groupe de jeunes Soudanais qui discutent des politiques migratoires.
Et de l'Europe.
Et de l'Europe. Est-ce que tu peux nous parler donc de la construction de ton film ?
Oui, alors, en fait, moi, ce film, je l'ai pensé un peu comme une sorte de portrait de l'Europe à travers la question migratoire. Et que donc, c'est pour ça que je l'ai démarré par cette fête d'entrée de la Croatie en Europe, avec les beaux discours qui vont avec ce genre de cérémonie. Et que finalement, tout le film va démentir et finir par justement un discours sur l'Europe porté par les migrants eux-mêmes. Donc ça, c'est un des fils qui traverse le film, mais c'est pas le seul. Bon, le film, il est bâti sur pas mal d'oppositions et aussi sur une sorte d'itinérance des regards. C'est-à-dire que le regard est aussi très fondamental dans le film, puisque on commence par le regard de ceux qui les chassent, et donc qui les chassent en notre nom, à nous tous, donc les policiers, et qui les filment. Sachant que voilà le film est un instrument de chasse. Et donc, il y a ceux qui les chassent. Et puis, on passe de l'autre côté de l'écran, on passe de l'autre côté de la caméra thermique, enfin de l'image thermique. Et cette fois-ci, c'est moi qui les filme. Et j'essaye de faire tout le contraire de ce que font ces images thermiques. C'est-à-dire, je les filme la plupart du temps en très gros plan sur les visages. Et donc, le regard, c'est le mien, bien sûr, mais c'est aussi ceux que je médiatise, c'est-à-dire ceux qui les aident, par exemple ce médecin dans ce centre de rétention, ceux qui les pleurent aussi, les parents avec les portraits de leur fils disparu. Et donc, ce regard, ces différents regards sur les migrants traversent le film jusqu'à arriver à ce groupe de Soudanais qui inverse le regard. C'est-à-dire, c'est eux qui regardent non seulement leur propre situation, mais aussi la situation économique de l'Europe, et qui font justement aussi tout un discours sur les problèmes économiques de l'Europe, l'euro, etc. Et donc voilà, le film, il est bâti comme ça, sur cette succession de regards qui changent et qui aboutit à cette impression du regard final. Et bien sûr, il est aussi bâti, comme je le disais tout à l'heure, sur cette opposition qui traverse le film entre la clôture et donc tous les obstacles que l'Europe met sur le chemin de ces personnes, aidées en cela par tout un tas de dispositifs technologiques, et cette obstination à franchir les obstacles et à passer de tout de même, et donc cet élan vers la liberté que j'ai essayé aussi de raconter avec en mettant en avant un petit peu cette force de vie et aussi en métaphorisant ce flux dont on parle souvent quand on parle de migration, hein, on parle de flux migratoire, ce qui est évidemment d'un côté très déshumanisant, puisque un liquide, c'est quand même quelque chose d'inerte, mais qui peut aussi être métaphorisé de manière beaucoup plus positive, à savoir que on ne peut arrêter le flux migratoire pas plus qu'on ne peut arrêter un fleuve. Au fond, c'est la vie qu'on tente d'arrêter, sauf à justement tuer. Ce que on sera évidemment un jour ou l'autre amené à faire, si vraiment on veut arrêter ce flux qui est un flux de vie. Mmh.
Merci Nathalie pour effectivement ça décrit très bien ton film, et moi je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de moments très beaux qui sont juste des images de traces laissées par les migrants. Tu arrives très bien à saisir en fait ce passage avec c'est très troublant et très parlant, que ce soit effectivement des clôtures ou que ce soit des vêtements, etc. Mais nous arrivons à la fin de notre émission, et donc la question suivante, ça va être pour chacune de vous de vous demander où on peut voir les films en ce moment. Alors je sais que Éléonore, ton film Il n'y aura plus de nuit, on peut le voir en ce moment sur Tank. Si je dis pas de bêtises, pendant une petite semaine, donc si vous voulez le voir, dépêchez-vous.
Sinon, il est sur toutes les plateformes de VOD, en fait, où la plupart des plateformes, Canal VOD, Orange, Universciné, tout ça, enfin bon, voilà. Et il y a parfois des projections, mais là, j'en ai pas une tout de suite, ça fait presque 2 ans qu'il est sorti, donc son trajet, voilà, il y en a... Je ne sais pas, vous avez qu'à le prévenir à chaque émission.
On le fait de temps en temps. Peut-être pas à chaque fois, parce que finalement, ça fait beaucoup d'émissions, beaucoup de films. Ça nous arrive. Il ne faut pas hésiter à nous tenir au courant.
Je plaisantais. Mais en tout cas, voilà, je vous tiendrai au cas où au courant. Ouais.
Et Nathalie ?
Moi, ça fait encore plus longtemps qu'il est sorti. Donc, c'est vrai que les occasions de projection sont beaucoup plus rares aujourd'hui, même s'il y en a encore de temps en temps. Mais c'est surtout VOD aussi. Et puis, DVD. On peut commander le DVD auprès de la production qui est aussi distributrice. Donc, il suffit de taper sur Internet le nom du film et de voir où on peut commander le DVD ou la VOD.
D'accord. Donc, je rappelle, la mécanique des flux. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Anne qui va nous faire l'agenda.
Eh bien, rapidement, puisque nous arrivons vraiment à la fin de cette émission, cette année 2023 est l'année du documentaire. Une initiative de la Cinémathèque du documentaire à laquelle se sont associés le CNC et la SCAM, destinée à mettre en lumière la richesse et la créativité de ce genre, à valoriser son patrimoine et à accroître sa visibilité auprès du grand public. On ne peut que se réjouir de cette annonce, en espérant qu'effectivement le documentaire trouvera peut-être des solutions dans ce monde qui dans lequel il a des difficultés quand même, et à être produit et à être diffusé. Pour revenir à l'association Adoc, poursuit ses projections débat un samedi par mois à 11h au cinéma Luminor. Le prochain samedi d'Adoc, c'est le 11 février, avec le film Malo et les étincelles de Julie Ciboni, le portrait d'une adolescente qui incarne la fragilité et la force de la jeunesse dans son désir de vie et d'émancipation. Comme toujours lors des projections d'Adoc, Elle sera suivie d'un débat avec la salle, animé par un membre de l'association, cette fois-ci le cinéaste Jean-Luc Sesco. Le Luminor, hôtel de ville, centenaire et dernier cinéma du Marais, est menacé de fermeture parce que la Sofra, propriétaire des murs, projette d'y faire une opération immobilière. Nous soutenons la lutte engagée par l'équipe du cinéma. Pour comprendre et soutenir à votre tour, allez voir sur leur site luminor-hôteldeville-toutattaché.com. À propos de films dont on a parlé dans une de nos émissions d'Adoc, vous pouvez voir jusqu'à la fin du mois au Saint-André-des-Arts à 13h le film « Droit dans les yeux » de Marie-Francine Lejalu. Nous l'avions reçu ici à Radio Libertaire dans notre émission du 3 juillet 2022 intitulée « Droit des classes ». Son film nous fait découvrir la clinique juridique des étudiantes de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Chaque séance est suivie d'une rencontre avec différentes intervenantes du monde du droit et de la justice. Enfin, pour ses 30 ans, en 2022, Adoc a réédité un livre très demandé et épuisé depuis des années, Cinéma documentaire, manière de faire, forme de pensée, dans lequel sont réunies des transcriptions de plusieurs débats de l'association à ses débuts, dans les années 90, autour de thèmes majeurs qui traversent le documentaire. Le livre vient de sortir en librairie le 3 février et vous pouvez l'acheter sur notre boutique en ligne sur le site d'Adoc, addoc.net. Je continue. On a dépassé 17h. Bon, allez, je grappille un
continue,
peu de
continue
temps.
Continue encore un peu.
Ben voilà, on voulait aussi vous parler des cinéastes iraniens, entre autres de Jafar Panahi, qui était emprisonné depuis l'été dernier et qui vient d'être libéré sous caution, sans doute suite à la grande mobilisation autour de son sort. Mais il reste des quantités d'Iraniens et d'Iraniennes emprisonnés en Iran. La SRF et l'ARP ont publié un communiqué auquel nous nous associons pleinement. Nous appelons nos gouvernements à condamner le plus fermement les crimes terribles du régime iranien contre son peuple et à protéger la liberté de penser et de créer. À propos de cinéastes iraniennes, il y a mardi 7 février au Forum des Images une séance Doc et Doc intitulée « Iranienne à la caméra, action ». Avec deux séances, l'une à 18h30, un film de 13 minutes de 1979, « Mouvement de libération des femmes iraniennes, année zéro », suivi de « The Silent Majority Speaks », un film de 2010-2014. Et ensuite, à 21h, « Profession documentariste », réalisé par de nombreuses cinéastes en 2014. Voilà, c'est donc l'heure de finir cette émission. Vous pourrez la réécouter bientôt sur le site d'Adoc, addoc.net. Comme toutes nos émissions, on a déjà traité le sujet depuis novembre 2019. Et nous vous donnons rendez-vous dans un mois, le dimanche 5 mars. Bonne journée à toutes et à tous.
Et merci à nos invités d'avoir été là.
Merci beaucoup
de nous avoir invités.
À dans un mois. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.